Europe 1. Pour commenter son histoire du jour, Christophe Ondelat reçoit un invité, acteur direct de son récit.
Voilà, pour le débrief de cette histoire, je suis maintenant avec maître William Pinault du barreau de Rennes. Vous étiez maître dans ce dossier, l'avocat de la maman d'Aurélie et de sa sœur. Peut-être pour commencer, un commentaire sur cette peine de 25 ans de réclusion criminelle. Pour assassinat, il ne s'en sort pas si mal. Il encourait perpétuité. Est-ce que il n'y a pas là, au fond, la prise en compte de circonstances atténuantes qui tiennent, je ne sais pas, à son histoire personnelle, à ce père mort lorsqu'il était très jeune ?
Alors vous avez raison, il encourait en réalité, si j'ose dire, doublement perpétuité. C'était un assassinat, et à ce titre-là, il pouvait être condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, mais c'était tout simplement un meurtre sur une femme par son conjoint, et à ce titre-là, encore, aussi, il encourait la perpétuité. C'est d'ailleurs, en réalité, sous cette qualification, parce qu'elle était finalement plus simple à appréhender, qu'il était jugé devant la cour d'assises. Pour répondre à votre question, je crois que oui, sa personnalité a été largement prise en compte, mais comme toujours, on le souhaite en tout cas devant les cours d'assises, l'histoire complexe de cet homme, on y reviendra peut-être, la personnalité abandonnique qui a fait qu'il a considéré comme absolument insupportable que sa femme le quitte, a été pris en compte et a sans doute pesé dans ce verdict qu'on peut considérer comme relativement clément, oui.
C'est un homme qui est abandonné en fait à plusieurs reprises. Son père meurt. Quand son père meurt, si j'ai bien compris, sa mère démissionne complètement de son rôle de mère.
C'est exactement ça. C'est un double abandon symbolique dans l'enfance. C'est l'abandon du père bien involontaire puisque celui-ci meurt accidentellement. Et puis c'est l'abandon dans la réalité de cette maman qui s'effondre, qui ne remplit plus son rôle de mère et paradoxalement dans ce vide qui est celui de cet enfant qui n'a plus ni figure paternelle ni figure maternelle, il prend une place parentale, ce garçon, et il la prend de manière totalement biaisée et sur un mode tyrannique que vous décriviez tout à l'heure.
Vos clientes, la maman d'Aurélie et sa sœur, ont pu comprendre ça, accepter ça?
Alors, vous savez, je crois que les cours d'assises ne sont jamais là pour prononcer des peines qui réparent les douleurs. Et les peines sont souvent pas à la hauteur de ce que ressentent de souffrance ceux qui ont perdu un proche dans des circonstances affreuses. C'est en tout cas ce que j'explique à mes clients, mes clientes, lorsque je les accompagne sur le banc des parties civiles. Et je crois qu'à partir du moment où elles n'avaient pas forcément beaucoup d'attentes sur cette réponse judiciaire, sur cette peine prononcée, elles n'ont été ni agréablement ni désagréablement surprises par ce verdict.
Ça m'intéresse bien ça. Ça veut dire que systématiquement, quand vous êtes avocat de partie civile, vous faites un peu de pédagogie judiciaire auprès de vos clients en leur disant ne vous attendez pas forcément à perpète, ils ne sont pas là en gros pour soigner votre chagrin.
Ça me paraît absolument essentiel que l'avocat de la partie civile fasse cela pour ses clients, pour qu'il soit préparé à la réalité de la décision judiciaire qui sera rendue, qui, encore une fois, n'est pas là pour œil, dent pour dent, selon une loi du talion qui ne fait pas partie de nos principes juridiques, réparer la souffrance. C'est là pour sanctionner un comportement infractionnel grave, pour mettre à l'abri la société de tels comportements, pour punir, pour réparer d'une façon symbolique, mais pas pour réparer la souffrance. Donc oui, j'essaie, moi, en tout cas, de leur expliquer cela.
Vous ne faites pas que de la partie civile, je le pressens comme ça. Vous êtes parfois en défense aussi. Ah non, mais il y a des avocats qui ne font que de la partie civile, qui ne sont pas à l'aise avec la défense. Et vous, on entend que vous êtes aussi parfois en défense. Le premier procès, quand même, c'est un moment étonnant. Il n'est donc pas dans le box des accusés. Il reste au centre de détention, à la maison d'arrêt où il est incarcéré. Pourquoi est-ce que le président ne le fait pas venir de force? C'est ce qu'on fait en général.
Alors, pour commencer, c'est proprement une situation sidérante. C'est-à-dire que tous les avocats et magistrats du parquet et du siège présents à cette audience rencontrent là une première. Qu'un accusé se comporte mal pendant les débats d'une cour d'assises sur plusieurs jours et qu'il soit, pendant quelques heures, une demi-journée, évacué par le président à titre de mesure de police de l'audience, et puis qu'il y revienne après avoir présenté ses excuses et on reprend le cours de l'audience, tout ça on l'a connu. Mais qu'un accusé refuse catégoriquement et totalement de sortir de sa cellule pour s'expliquer, c'est véritablement une première pour beaucoup d'entre nous. Je crois que le président ne fait pas le choix de la comparution forcée parce que il y a tout de même des épisodes de fragilité qui ont donné lieu à des passages à l'acte chez Sébastien Beaugendre tout au long de la procédure.
Tentative de suicide, hein, c'est ça.
Voilà, alors des tentatives, en tout cas des alertes qui ont inquiété sur sa santé, puisque au moment de l'instruction, à la faveur d'un interrogatoire projeté, il va effectivement ingérer des médicaments en quantité modérée, mais on a le processus évidemment de contrôle de sa situation. Est-ce qu'il est véritablement en danger? Est-ce qu'il est en état de comparaître? Et puis en général, il y a un report. C'est ce qui s'était passé à l'instruction. Et puis ça s'était passé de la même façon lors d'une première fixation de l'affaire en décembre 2015, où une nouvelle fois, ingestion de médicaments, expertise médicale, qui dira que pour quelques jours, en tout cas, il est hors d'état de comparaître et il faudra de nouveau reporter le procès. Et je crois que le président, plutôt que de se retrouver confronté à un nouveau report qui serait lié à un geste auto-agressif de Sébastien Beaugendre, eh bien, fait le choix de faire passer l'audience hors sa présence pour qu'il y ait un premier jugement, et puis que peut-être c'est ce qui se passera. Après un premier verdict qui ne le satisfera pas, eh bien, il choisira de faire appel et de comparaître cette fois.
Pourquoi est-ce qu'à votre avis, maître, il ne reconnaît pas qu'il est l'assassin de sa femme? Est-ce que ses avocats, est-ce que vous avez senti ça, l'ont amené à avouer ou pas?
Alors, mes confrères ont fait, je crois, tout leur possible pour ouvrir une porte de vérité et permettre à Sébastien Beaugendre d'avouer ce meurtre, cet assassinat qui paraissait indiscutable à quiconque avait regardé le dossier de près. Pourquoi est-ce qu'il ne s'est pas ouvert à cette vérité-là? D'abord parce que, je crois, c'est une personnalité extrêmement rigide. Que les fragilités d'abandon dont on a parlé, hein, d'abandon infantile qui sont les siennes, ont été protégées. La souffrance qu'il pouvait en ressentir ont été protégées par une carapace comme ça de rigidité très forte chez cet homme, qui s'est construit comme cela. Et que donc, chez Sébastien Beaugendre, quand il y a un avis, une position, changer d'avis et changer de position est presque consubstantiellement impossible. Ça, c'est la première explication un peu psychologique, c'est ce que diront d'ailleurs certains experts de lui. Et puis, la seconde raison, c'est l'enjeu d'image par rapport aux enfants. Il ne faut pas oublier que Sébastien Beaugendre dira à ses enfants, mais y compris les yeux dans les yeux de ceux-ci, à la cour d'assises d'appel lorsqu'il comparaîtra, il les regardera, il les appellera par leur prénom, il leur dira « Papa n'a pas tué maman ». Et il veut, Sébastien Beaugendre, conserver cette image d'innocence aux yeux de ses enfants. Et je me demande si ces absences précédentes dans le processus judiciaire n'étaient pas destinées qu'à permettre ce moment symbolique où il viendrait à la cour d'assises d'appel pouvoir dire à ses enfants « Je n'ai pas tué votre mère, je reste innocent ». C'est vraiment un enjeu d'image à l'égard de ses enfants. Enfin, en tout cas, c'est une des raisons, de mon point de vue, qui l'a rigidifié dans cette position de dénégation.
Vous êtes en train de me dire que des enfants qui avaient quoi, 14, 12, 11 ans, dans ces eaux-là, ont assisté au procès de leur père ayant tué leur mère, du début à la fin.
Absolument, oui.
Ça fait débat, ça, dans la famille?
Alors, ça a été travaillé, réfléchi et choisi avec des équipes éducatives et d'intervenants psychologues, travailleurs sociaux qui accompagnent les enfants depuis les premiers instants de cette tragédie remontant à 2012. Donc la question de savoir s'il devait ou ne pas être là a été débriefée et il a été choisi qu'il puisse être là.
Oui, c'est pas un hasard, quoi. Ça a été travaillé,
non,
c'est l'essentiel.
Ça a été travaillé. Et bien évidemment, ils ont été protégés des moments d'évocation, des détails les plus terribles de cette affaire, tout ce qui pouvait concerner la médecine légale, la balistique, etc. Ouais. Les enfants ont été constamment cadrés. D'ailleurs, l'un de mes confrères, Fabien Lahaye du Barreau de Rennes, était à leur côté spécifiquement pour porter leur parole, très en contact avec les travailleurs sociaux et les psychologues qui accompagnaient ces enfants, tandis que j'étais, moi, l'avocat de, on l'a dit, la sœur de la victime, qui est aussi celle qui les a recueillis depuis le décès de leur mère et qui les élève, absolument.
Eux, ils pensent quoi? Ils pensent que leur père a tué leur mère?
Je me garderai bien de traduire cette pensée que je ne connais pas et qu'ils ont conservée dans leur intime. J'étais en plus pas leur conseil, donc je ne sais pas ce qu'ils ont pu exprimer.
On me dit qu'au moment du verdict, ils sont allés embrasser leur père, c'est vrai?
Oui, bien sûr. Bien sûr, avant même le verdict, pendant le temps du délibéré, ils ont manifesté, eux, le souhait, mais leur père évidemment le manifestait tout autant, de pouvoir aller lui parler, de pouvoir l'embrasser, lui tenir les mains. Ça aussi, ça a été discuté, ça a été accompagné, et vous comprenez bien que des enfants qui n'ont plus qu'un parent parce que l'autre leur a été retiré dans les circonstances pourtant ce que l'on sait, il a été assassiné, eh bien se raccroche à cet unique parent, quand bien même il est le bourreau, il est celui qui a tué leur mère. C'est un réflexe naturel, on sait même que les enfants terriblement abusés sexuellement par des pères souvent continuent à leur conserver de l'affection, ou en tout cas à dire qu'ils en ont encore, et à vouloir continuer à entretenir des liens avec eux. C'est très complexe, évidemment.
C'est complexe et passionnant. J'ai une dernière question pour vous. Est-ce qu'il vous semble que Sébastien Beaugendre est intelligent? Parce que dans ce crime, il y a une scène qui est à garder pour un téléfilm policier. Enfin, cette idée d'aller acheter a posteriori un pistolet d'alarme après le meurtre, dans une armurerie à Rennes, d'aller l'essayer sur un parking pour justifier la présence de poudre sur ses mains, c'est presque du génie.
Alors incontestablement, il a une intelligence pratique, pragmatique, adaptative, qui fonctionne très bien. Cette intelligence pratique, pragmatique, il l'a mise au service d'un projet, d'une résolution ferme. Je tuerai celle qui ne peut pas m'abandonner parce qu'elle est mon objet, elle est mon objet de rassurance et je ne supporterai pas qu'elle s'en aille. Et si elle doit s'en aller, eh bien elle disparaîtra pour tout le monde. Et dans cette obsession qui n'a cessé de croître de jour en jour dans les semaines qui précédaient la mise à exécution, eh bien effectivement il a su mettre en œuvre cette intelligence et mettre à bien son projet, le construire de manière intelligente en concevant les moyens qu'il pensait être utile pour se dédouaner ensuite. C'est finalement ce qui va l'accuser, hein, la lettre de Madame G, c'est de la maladresse aussi, hein, c'est aussi ce qui fera des traces ADN qui confirmeront les soupçons contre lui. Bref, pour répondre à votre question, c'est un garçon qui a été intelligent, élaboré dans la construction du meurtre qu'il a commis.
C'est dommage qu'il n'ait reconnu aucun des faits, parce qu'il n'a pas pu évidemment s'expliquer là-dessus. Peut-être qu'il a pêché une ou deux de ces scènes dans des séries policières.
C'est possible que le petit écran était une source d'inspiration importante pour lui, c'est possible.
J'ai adoré parler avec vous, Maître Pinault.
C'était un plaisir partagé.
Au barreau de Rennes.
Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur Europe 1.fr.